Ce matin, j'ai voulu refaire le tour à l'extérieur et puis à l'intérieur de la cathédrale de Chartres pour revivre une émotion que j'ai eue la première fois que je visitais Chartres. Alors l'émotion dépend de ça. Que si on regarde les vitraux de l'extérieur de la rue, on ne voit que des espaces noirs et des morceaux de verre tenus ensemble par des morceaux de plomb, quelque chose qui n'a rien, absolument rien de bon, de spécial. Mais si on entre dans la cathédrale et on regarde ces vitraux de l'intérieur contre la lumière, alors on voit ce que vous connaissez. Et pour moi, ça, c'est une image de l'Église. Si on regarde l'Église seulement de l'extérieur, comme font les politiciens, les médias, on ne voit dans l'Église que des défauts, que des péchés, des méprises. Mais si on entre dans l'Église, non évidemment physiquement, mais si on entre, on se sent partie de l'Église. Alors c'est comme voir toute cette histoire sacrée, cette beauté. Et donc nous avons le privilège, la grâce de voir l'Église de l'intérieur, parce que nous sommes partie de l'Église. Eh bien, je viens maintenant à parler du thème qu'on m'a proposé, l'espérance qui m'est très chère, évidemment. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. C'est une contradiction, mais poétique. Hein? La foi que j'aime le mieux, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. La charité du Dieu, ça ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne du Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. C'est ainsi que commence le merveilleux poème de Charles Péguy sur l'espérance. La vertu de l'espérance comporte deux moments inséparables l'un de l'autre, mais distincts. Il existe une espérance objective qui désigne la chose espérée, en définitive la vie éternelle, le bonheur éternel avec Dieu. Et il existe une espérance subjective qui indique l'acte même d'espérer quelque chose. Cette dernière est une force de propulsion en avant, un élan intérieur, une extension de l'âme vers l'avenir. Un père de l'Église définissait l'espérance une migration amoureuse de l'esprit vers ce qu'il espère. Les textes bibliques qui mettent en lumière cet aspect subjectif de l'espérance dont nous allons nous occuper sont ceux dans lesquels on ne parle pas d'espérer quelque chose, mais d'espérer en quelqu'un, où l'espérance désigne une certaine façon d'être en relation avec Dieu et avec le Christ. Plus qu'un objet de l'avoir, elle apparaît comme une qualité de l'être. L'une des définitions des chrétiens dans le Nouveau Testament est « ceux qui ont espéré dans le Christ ». Le Christ lui-même est appelé « notre espérance », celui en qui les nations mettront leur espérance. Dans cette ligne, le plus beau texte du Nouveau Testament sur l'espérance est celui de Paul dans la Lettre aux Romains, chapitre 13. Que le Dieu de l'espérance, Dieu est défini le Dieu de l'espérance, vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par vertu de l'Esprit Saint. Il y a là tous les éléments d'une théologie de l'espérance. Ses fruits, sa racine, son auteur, l'Esprit Saint. L'expression « le Dieu de l'espérance » ne signifie pas seulement le Dieu qui a promis la vie éternelle et qui apporte son aide pour l'obtenir, ou le Dieu que nous espérons posséder un jour. Le Dieu de l'espérance est aussi le Dieu qui nous permet d'espérer, qui ouvre le cœur à l'espérance. Le Dieu qui a nourri l'incoercible attente des prophètes. Le Dieu de la promesse qui entrouve l'avenir et pousse son peuple en avant. Le Dieu qui nous libère de la terrible prison du temps. Cette espérance, entendue comme un acte, un état d'âme, comme une capacité à se projeter dans l'avenir, est un mystère, un miracle. Elle transforme tout ce qu'elle touche.